Jamais les sondages n'ont autant pesé dans un conflit social, celui des Gilets jaunes, avec une série impressionnante de sondages destinés à savoir si les Gilets jaunes étaient populaires au sein du pays, combien de Français se sentaient Gilets jaunes. J'en ai une pile à côté de moi. On va évoquer le poids politique de ces sondages et puis également tenter de voir s'il est raisonnable de se fier à ces sondages. Nous sommes pour ce faire en compagnie d'un sondeur, Jérôme Sainte-Marie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la société Polling Vox et vous êtes également politologue. Et à côté de vous, l'éditorialiste au Monde, Gérard Courtois. Et tout d'abord, une question, Gérard Courtois. Ce poids des sondages dans un conflit social, la manière dont le pouvoir réagit ou gère ce conflit social, est-ce complètement inédit ?
Non, ça n'est absolument pas inédit. C'est une mesure qui est faite à chaque fois. Il y a deux thermomètres dans les conflits sociaux au cours des dernières années. Le nombre de manifestants, et il y a manifestation, toujours, et le soutien de l'opinion. Et c'est en fonction de ces deux paramètres que le pouvoir se sent plus ou moins sous pression ou plus ou moins libre de ses mouvements. Ce qui est très particulier dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, c'est non seulement, on l'a dit, et ausculté sur tous les sous tous les aspects, c'est qu'il est très énigmatique et inédit dans ses formes, dans son mode de désorganisation, si je puis dire, dans la manière dont il est apparu et dans la vitesse à laquelle il a, dans un premier temps, déstabilisé, voire ensuite paralysé le pouvoir. Donc ça, on l'a bien mesuré, mais ce qui a été extrêmement surprenant. Et je pense le plus paralysant pour le pouvoir, c'est que au fond il n'y a pas eu énormément de manifestants entre guillemets. D'une part sur les ronds-points, d'autre part dans les manifestations hebdomadaires, on était à quelques dizaines de milliers, voire au plus haut de la mobilisation de 100 000, beaucoup moins que n'importe quelle manifestation syndicale classique dans une contestation d'une réforme des retraites.
C'est ce que disait par exemple Laurent Berger de la CFDT.
Oui,
il disait,
oui,
s'il s'agissait d'une manifestation syndicale,
oui,
elle serait ratée.
Sauf que, de fait, ce mouvement est apparu bénéficier d'un soutien très fort et beaucoup plus fort que d'autres mobilisations sociales.
C'est pour ça que le pouvoir s'est senti sous pression ?
Évidemment. À partir du moment où, soit par des phénomènes de procuration, comme on l'avait dit en 95 sur les grandes grèves sociales, soit par des phénomènes d'identification à ce qui était exprimé par ces ronds-points, le pouvoir s'est rendu compte qu'il avait braqué le pays, violemment. Et puis après, ça a fait ressortir énormément de choses qui ont été renvoyées à la figure en boomerang au président de la République.
Jérôme Sainte-Marie, votre point de vue, vous qui êtes sondeur.
Oui, ce mouvement repose sur un trépied, un tripode, si on préfère, c'est-à-dire à la fois les réseaux sociaux, qui ont été essentiels, notamment dans les premières mobilisations et dans sa perpétuation. Ensuite, les mobilisations, non seulement la présence physique, non seulement dans les centres-villes, mais surtout sur les ronds-points. Il n'y aurait pas, un mouvement ne peut pas exister uniquement de manière virtuelle. Et enfin, troisième élément, celui qui nous rassemble ce matin, c'est bien sûr le soutien massif au départ, mais encore majoritaire dans l'opinion publique, qui confronte évidemment les élus et le gouvernement à une difficulté. C'est un soutien que, comment dirais-je, c'est important parce que autant le gouvernement peut œuvrer sur les chiffres de la mobilisation, quand je dis œuvrer, c'est-à-dire présenter les chiffres qui l'arrangent par rapport aux chiffres dont il dispose, et sous-estimer très naturellement la mobilisation samedi après samedi, ce qui est le travail normal de tout ministre de l'Intérieur, mais inversement, les autorités ne peuvent pas intervenir, quoi que certains en pensent, les autorités ne peuvent pas intervenir sur les chiffres publiés par les instituts de sondage.
Comment vous expliquez le soutien au mouvement ? Alors, et vous êtes d'autant plus libre, Jérôme Sainte-Marie, ici, que les sondages que j'ai en face de vous, ils ne viennent pas de Polling Vox, ils viennent de différents
Absolument.
Instituts de sondage, et là, Baris Interactive. On est sur un soutien qui varie, alors parce que les sondeurs varient, malgré tout, entre 50 et 65%, c'est une fourchette large, mais On a l'impression donc que ce soutien du mouvement, il est populaire malgré la violence, malgré les dérapages. Comment vous expliquez ça ?
Alors la première chose, effectivement, l'Institut PollingVox ne publie pas de sondage, il en réalise simplement, et donc je pourrais parler de la production, si vous voulez, des instituts qui en publient de manière assez, comment dirais-je, équilibrée. La matrice, si vous voulez, aider toutes les questions sur les mouvements sociaux, c'est une très vieille question qui était posée autrefois par l'Institut CSA pour le Parisien, que je vous demande simplement d'écouter, parce que elle est assez précise, cette question. Et on la pose depuis, la plupart des mouvements sociaux, depuis des décennies maintenant. Elle est reprise aujourd'hui par l'IFOP ou par l'Institut ELAB. On demande aux gens si par rapport à un mouvement donné, un mouvement social donné, ils ressentent du soutien, de la sympathie, de l'opposition, de l'hostilité ou de l'indifférence. Mmh. Et c'est en fait en additionnant le soutien et la sympathie, qui sont deux notions un peu différentes, que l'on obtient des résultats qui étaient de l'ordre de 75% il y a deux mois et qui sont aujourd'hui de l'ordre de 55 à 60%. Parce que soutien, évidemment, il y a à peu près 30-40% des gens. C'est, là, on sent un engagement, si vous voulez, du sondé assez fort. La sympathie, c'est évidemment un sentiment infiniment plus friable et plus modéré. Mais donc voilà, si vous voulez, à mon avis, la question de référence. Mais il y a d'autres questions qui sont posées. Certains demandent, est-ce que la mobilisation vous paraît aujourd'hui justifiée ou pas justifiée ? Alors c'est une question beaucoup plus simple. Il y a même certains, un institut qui pose, vous sentez-vous vous-même gilet jaune ? Alors là, c'est de 10 à 20%. Bref, ce qui est formidable.
On va revenir sur tous ces chiffres, parce qu'ils sont quand même très impressionnants.
On va revenir là-dessus, mais ce que je voudrais simplement souligner, c'est que la pluralité des instituts permet d'avoir une diversité de questions qui permettent ensuite d'avoir une analyse assez sérieuse.
Le poids politique des sondages, Gérard Courtois, a priori, il ne va pas nécessairement de soi, dans la mesure où on a aussi l'impression, dans le même temps, que le gouvernement est obligé d'opérer un tri dans sa politique, notamment, par exemple, de consolider sa base électorale. Laquelle base électorale ne se sent pas nécessairement en sympathie avec ce mouvement. Et donc, toutes les mesures que va tenter de prendre le gouvernement ne sont pas nécessairement des mesures dirigées vers ceux qui se sentent gilets jaunes ou qui soutiennent le mouvement des gilets jaunes.
Oui, là vous anticipez beaucoup sur la manière dont les choses pourraient se passer maintenant. Quel type de réponse le gouvernement pourrait apporter à ce mouvement ? Moi j'ai un sentiment très 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 simple par rapport à ça. Je pense que Emmanuel Macron joue sa survie ou la survie de son quinquennat dans cette affaire. Donc, si il essaie de financer avec ce mouvement, s'il essaie de noyer le poisson d'une manière ou d'une autre, et c'est le soupçon qui pèse sur le grand débat qu'il a engagé, ça lui reviendra dans la figure de manière beaucoup plus violente. Donc, je pense que très très simplement, après on verra bien comment quel type de synthèse, quel type de proposition d'abord, quel type de synthèse en est faite, et dans cette synthèse, quel type de mesures pourraient être retenues ou de réponses pourraient être retenues par le pouvoir pour montrer à ce mouvement qu'il a au fond gagné. C'est l'objectif de toute sortie politique d'un tel mouvement de crise sociale, et il faut montrer à ceux qui se sont mobilisés qu'ils ont gagné. Alors voilà, donc je crois que c'est une obligation de résultat pour
le pouvoir. Mais la chose, elle ne va pas nécessairement de soi, parce que quand on prend par exemple la mobilisation contre la loi El Khomri, donc ça c'était une mobilisation sous François Hollande, cette mobilisation, elle avait convaincu, alors là aussi il y a eu beaucoup de sondages, mais disons que jusqu'à 60% des Français étaient opposés à la loi El Khomri, et François Hollande n'a pas varié. Alors dans ce cas-là, est-ce que lui était plus indépendant des sondages qu'Emmanuel Macron ? Est-ce que il considérait que ce chiffre ne devait pas être pris au sérieux ? Bref, comment interpréter ça ?
D'abord, je pense que là, le soutien au mouvement des Gilets jaunes a été au moment le plus important, nettement plus fort que beaucoup d'autres mouvements sociaux précédents.
On est monté jusqu'à 73% voilà. Tout au début. Voilà. De ce mouvement.
Non, mais ce n'est pas fréquent. Et quand un pouvoir se retrouve devant une opinion, alors après on peut discuter de ce qu'est cette opinion, qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans cette espèce de magie simplificatrice ou réductrice du chiffre, les trois quarts des Français qui disent on soutient d'une manière ou d'une autre, on est en sympathie, on soutient, on partage une partie des revendications, pour un pouvoir qui s'est construit dans un rapport direct aux Français, parce que c'est quand même une des singularités du macronisme, d'avoir fait l'économie des corps intermédiaires et de les avoir, pendant 18 mois, mis de côté, écartés ou rudoyés ou négligés. À partir du moment, et c'est aussi ça qui lui revient dans la figure au président Macron, c'est ce rapport direct qu'il a voulu construire et sur lequel il s'est construit, et il a construit sa victoire, qui ensuite fait qu'il est dans un rapport totalement électrique avec l'opinion et que ça rend sa situation d'autant plus compliquée.
Jérôme Sainte-Marie, pourquoi François Hollande tenait-il moins compte des sondages? Alors j'ai donné un cas, hein. Pour la mobilisation contre la loi El Khomri, votre point de vue?
Mon point de vue, c'est que François Hollande, à travers la loi El Khomri, appliquait une politique qui n'était pas décidée par lui-même. C'est-à-dire qu'il faut être tout à fait clair. L'adaptation du marché du travail est une exigence européenne, notamment, et des marchés financiers. Tout ne se fait pas dans la tête du dirigeant ou dans la relation avec l'opinion, et c'est un sondeur qui parle, c'est pas comme ça que ça se passe, ça serait trop simple. Et les gouvernants européens en tout cas, ont un carnet de commandes annuel d'ailleurs, qui leur impose un certain nombre de réformes. Je pense à la réforme de la SNCF par exemple récemment. La réforme de la SNCF, ça correspond au quatrième paquet ferroviaire décidé au niveau européen, et si on comprend pas qu'il y a un agenda qui s'impose aux dirigeants, on comprend pas grand chose, parce qu'ils sont amenés à faire des choses impopulaires. François Hollande, d'ailleurs, l'exemple est très intéressant. Effectivement, il maintient cette loi El Khomri, et la gestion des manifestations et du mouvement par Manuel Valls est assez rude, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça aboutit à une chose toute simple. Ça aboutit à la division de l'électorat de gauche, et ça aboutit simplement au fait que le président sortant n'est même pas en mesure de se représenter tellement il a détruit sa
propre
base.
Donc ça a été une erreur politique pour vous?
Ça a été une erreur politique. Pouvait-il éviter dans le cadre des engagements pris? Je ne suis pas sûr.
Gérard Courtois.
Toute petite différence entre Hollande et Macron. Hollande, il avait en face de lui un mouvement qui était porté par les syndicats. Classique, avec qui la discussion ou la confrontation est assez balisée. Là, Macron est devant un mouvement qui est totalement inédit dans son mode de développement et d'organisation.
Alors, une interrogation au sondeur Jérôme Sainte-Marie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait entre 10 et 15% de Français qui se sentaient gilets jaunes. Effectivement, en fonction des sondages, on voit ce chiffre récurrent. Ça semble être un chiffre énorme. Au maximum de la mobilisation dans les rues, il y a eu 350 000 personnes, 400 000, mais en tout cas, certainement pas 10 à 15%. Comment trouve-t-on un tel chiffre?
Bon, en posant la question aux gens, c'est pas la meilleure question, si vous voulez, mon avis de praticien des sondages. Êtes-vous gilet jaune? Comme l'a dit Gérard Courtois, c'est un mouvement qui est totalement nouveau, qui est très informel, chacun y met un peu ce qu'il veut, et donc on demande aux gens de s'identifier à quelque chose qu'on serait bien, nous-mêmes, en peine de définir. Donc ça me paraît pas extraordinaire, tandis que je trouve que les questions classiques, encore une fois, soutien, sympathie, ça correspond aux hostilité, indifférence, ou opposition, me paraissent plus utile. J'insiste sur le fait que ces chiffres-là sont à regarder, comme toujours dans les sondages, non seulement sur le niveau global, mais j'ai trouvé que le principal apport de ces multiples sondages depuis 2 mois et demi a été dans l'analyse, selon les catégories. Les catégories de genre, les catégories d'âge et surtout les catégories sociales. Et c'est remarquable de voir que ce mouvement qu'on a peine à définir parce qu'il n'a pas vraiment de précédent, eh bien prend une clarté assez minérale quand on regarde les catégories sociales. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que selon la place qu'on occupe dans la société et même dans une forme de hiérarchie sociale, le jugement est radicalement différent. Grosso modo, plus on est de conditions modestes et plus on s'identifie au mouvement, et inversement, les catégories, les cadres par exemple, éprouvent la plus grande réticence ou la plus grande hostilité à l'égard du mouvement des Gilets jaunes.
Alors là, les chiffres, on les a par exemple au travers d'une note pour la Fondation Jean Jaurès. On voit 28% des titulaires d'un CAP ou d'un BEP se disent Gilets jaunes, 28% des personnes, parce que la dimension géographique est également cruciale, 28% des personnes qui se situent à une distance entre 40 et 60 km d'une agglomération se disent Gilets jaunes. Il y a donc effectivement, si on suit les sondages, une carte très nette de l'appartenance au mouvement.
Oui, il y a également une question très intéressante posée par l'Institut BVA, ce qu'on appelle la classe sociale subjective. Est-ce que les gens se considèrent comme faisant partie ? Donc là, on parlait des cadres, etc. Ça, c'est les données INSEE, c'est objectif. En tout cas, voilà, on peut pas. Ça correspond à la profession, c'est une taxonomie très précise. Tandis qu'inversement, la classe sociale subjective, c'est est-ce qu'on se sent appartenir aux catégories aisées, aux catégories moyennes supérieures, aux catégories moyennes inférieures, modestes, ou bien aux catégories populaires, pour simplifier. Alors là, c'est lumineux. C'est-à-dire que, je prends un chiffre il y a 2-3 semaines, autant le soutien ou la sympathie pour le mouvement était de 90%. Parmi les catégories populaires, il tombait, on était à un moment où le soutien était élevé, à 45% parmi les catégories aisées. C'était mécanique, c'est-à-dire que la dimension, parce que on peut trouver toutes sortes de critères, si vous voulez, pour décrire un mouvement, voire pour noyer le poisson. Tandis que là, il me semblait que la dimension sociale était véritablement prédominante.
Mais alors si on raisonne de manière très cynique, ce que les politiques ne font jamais, Gérard Courtois...
Ni les journalistes.
N'y a-t-il effectivement ni les journalistes. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une différence entre ces gens qui disent gilets jaunes, j'ai cité quelques chiffres, et l'électorat d'Emmanuel Macron? Un clivage très profond qui fait que, de toute façon, le divorce était consommé bien avant le début du mouvement.
Oui, enfin le divorce est entre, vous voulez dire, entre les catégories populaires et l'électorat de Macron qui l'était beaucoup moins, mais qui n'était pas non plus absent des catégories populaires.
Jérôme Sainte-Marie fait l'amour.
Oui, je pense pas que le mouvement puisse être interprété. Ça, c'est les sondages qui le disent. C'est là l'utilité de l'outil. C'est pas uniquement pour faire du buzz. Un sondage, ça apprend plein de choses. Eh bien, quand on regarde dans ses entrailles, si j'ose dire, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas une déception à l'égard d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été élu de fait par 24% des Français. Ces Français appartenaient de manière très très nette, comme rarement, aux catégories sociales plutôt aisées, alors que les Gilets jaunes, semble-t-il, appartenaient aux catégories populaires. C'est bien une opposition qui se réveille, mais qui, à mon avis, dure depuis la campagne présidentielle.
On va continuer.
Enfin, nous ne sommes pas forcément... C'est peut-être un bon point de vue, peut-être un peu trop schématique.
Peut-être, en tout cas, êtes-vous en désaccord. En tout cas, on va continuer à évoquer la manière dont les sondages ont influé sur la politique menée, celle qui l'a été jusqu'à présent et celle qui pourrait l'être à l'issue du grand débat national. On vous retrouve, Jérôme Sainte-Marie, qui est sondeur et président de la société Pollingvox, et Gérard Courtois, éditorialiste au Monde, dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture. On va continuer sur ce que vous évoquez, autrement dit, sur cette international des nationalistes, avec une mobilisation en Italie de la part de certains membres du gouvernement en faveur des Gilets jaunes, pour tenter de comprendre comment, en France, en compagnie de nos deux invités, l'éditorialiste au Monde Gérard Courtois et le sondeur Jérôme Sainte-Marie, eh bien, il y a ou non une coloration politique de ce mouvement des Gilets jaunes. Votre point de vue là-dessus, Jérôme Sainte-Marie?
Alors, il y a deux façons de regarder, enfin, de répondre à votre question. D'une part, l'observation que l'on peut faire sur les ronds-points ou sur les rassemblements dans les grandes villes. Personnellement, moi, je suis allé plusieurs fois observer, y compris pour des médias, les rassemblements à Paris. Alors, à Paris, c'est très particulier. Alors, c'est, les gens qui viennent manifester à Paris ont une caractéristique, ils ne viennent pas de Paris. Les Parisiens boycottent littéralement les rassemblements. En fait, Paris a voté à 90% au second tour pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron faisait plus de 30% dès le premier tour. Enfin, Macron plus Fillon, c'est 60% à Paris au premier tour. Et on voit bien que c'est pas du tout l'univers parisien qui est sur les Champs-Élysées. C'est des gens qui viennent de catégories très populaires, des ouvriers notamment, qui viennent de Champagne-Ardennes, de Normandie, etc. Parmi eux, les entretiens que j'ai pu faire montrent qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes, mais il y a aussi beaucoup d'électeurs du Rassemblement National ou de Marine Le Pen, tout simplement, et beaucoup, beaucoup moins d'ailleurs d'électeurs, par exemple, de la France Insoumise. Après, c'est beaucoup plus simple de répondre à votre question quand on regarde justement les sondages. Ça sert à ça, les sondages, justement, où on a à la fois les questions sur est-ce qu'on soutient ou est-ce qu'on s'oppose au mouvement des Gilets jaunes. Et puis, on a également posé la question à côté du vote antérieur. Et on peut voir qui soutient et qui ne soutient pas. En fait, la carte des soutiens ou de l'opposition au mouvement des Gilets jaunes ressemble à s'y méprendre à la carte du vote oui ou du vote non au traité constitutionnel européen en 2005. Grosso modo, ceux qui soutiennent les Gilets jaunes ressemblent étonnamment à ceux qui ont voté non. On y trouve donc des catégories beaucoup plus populaires. On y trouve également beaucoup plus représenté le vote dit souverainiste, le vote pour le Rassemblement national, le vote pour la France insoumise. Inversement, quand vous êtes beaucoup plus, quand vous ressemblez à l'électeur qui a voté oui en 2005, quand vous êtes plus centriste, quand vous avez voté pour la droite classique, pour le Parti socialiste, et plus récemment pour Macron, dont le projet est le noyau dur de son projet est quand même le projet européen, c'est le noyau dur du oui à l'Europe, Emmanuel Macron, eh bien là, vous vous opposez à ça. Donc c'est bien deux France qui préexistaient au mouvement, qui se sont réveillées l'une contre l'autre à l'occasion de ce mouvement, dans des proportions certes, évidemment, un peu différentes.
Mais alors, dans ces conditions, Gérard Courtois, que peut espérer l'exécutif, que peut espérer Emmanuel Macron en essayant de convaincre des gens qui votent ou bien Rassemblement National ou bien, si l'on suit Jérôme Sainte-Marie, plutôt dans le camp du non, alors qu'Emmanuel Macron incarne évidemment le camp du oui. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de s'intéresser à sa base électorale?
Je vais répondre à votre question, Guillaume, mais je voudrais revenir sur la question précédente sur le Front National, le Rassemblement National. Il y a une note qui a été publiée par le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, de Luc Rouban, très intéressante, parce que le Sciences Po mène chaque année son baromètre de la confiance politique. Ça a été publié il y a une dizaine, quinzaine de jours, qui démontre, et cette année plus encore que les années précédentes, ça fait 10 ans que cette mesure est faite, le degré de défiance des citoyens à l'égard des institutions, des responsables politiques, de la démocratie, etc., etc. Et dans cette enquête de cette année qui a été menée entre grosso modo à la mi-décembre, pendant une dizaine de jours, ils ont évidemment posé une question sur le degré de soutien ou pas au mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a un croisement possible à travers cette enquête qui est une enquête très très solide, très approfondie, qui permet de mesurer au fond sur ces critères de défiance politique qui sont massifs, comment se situaient les gens qui soutenaient les Gilets jaunes. Et on voit très bien, c'est une des conclusions de la note de Rouban, il y en a d'autres, notamment l'émergence d'une sorte de lutte de classe informulée, informe, mais violente. Et une des autres conclusions, c'est évidemment la proximité très forte avec le Rassemblement National, de ceux qui soutiennent de manière tout à fait, de manière forte, le mouvement. Sur la question concernant l'utilité pour Emmanuel Macron de répondre aux revendications qui sont formulées. Mais c'est pas aux Gilets jaunes qui répond. Quand il met 10 milliards de dépenses supplémentaires sur la table au mois de décembre, ça touche pas 200 000 Gilets jaunes, ça touche une quinzaine de millions de Français. À travers la CSG sur les retraités, à travers les heures supplémentaires, toutes les mesures qui ont été annoncées, si on fait le total des bénéficiaires potentiels, supposé que tout ça soit, et c'est en train d'être mis en œuvre, ça fait une quinzaine de millions de Français. Et précisément les Français modestes qui sont en sécession démocratique ou en insurrection démocratique, non seulement contre les gouvernants en général, mais contre ce pouvoir-là en particulier. Et pas pour des raisons comme ça qui tombent du ciel, parce que ce pouvoir-là les a braqués.
Frédéric Saïs, une réaction.
Une question à Jérôme Sainte-Marie, à la question du débouché maintenant pour ce mouvement des Gilets jaunes qui a plus de 2 mois, qui a commencé le 17 novembre de manière visible. Est-ce qu'on a pu mesurer parmi ceux qui se reconnaissent dans ce mouvement le degré de soutien à l'idée, par exemple, de se présenter aux élections européennes? Parce qu'il y a une énorme défiance contre le système représentatif et en même temps, il y a la nécessité d'avancer, de continuer la lutte, peut-être par d'autres moyens. Est-ce que ça, vous avez pu le mesurer?
Bon, on l'a mesuré de manière indirecte. Vous savez, il y a simplement des instituts, je pense à l'IFOP notamment, qui ont testé l'hypothèse d'une liste gilet jaune qui fait, selon les hypothèses, je crois, entre 5 et 12% selon les configurations. C'était testé plusieurs fois. Donc ça montre déjà, ces chiffres-là montrent tout simplement que pour la majorité des gens qui soutiennent, pour l'immense majorité des gens qui soutiennent les gilets jaunes, ils ne voient pas très bien pourquoi ils iraient choisir une liste. Donc ils n'y connaissent ni le programme, notamment sur l'Europe, ni les dirigeants. Alors qu'ils se reconnaissent pour des raisons multiples dans ce mouvement qui est à peine un mouvement, qui est plus un phénomène, cette mobilisation des gilets jaunes. Il y a également un autre sentiment qui commence à apparaître de plus en plus, c'est que tout le monde comprend bien que la présence d'une liste gilets jaunes aux élections européennes aurait un effet paradoxal mais totalement évident, c'est de renforcer la liste soutenue par La République En Marche à arriver en tête des élections européennes.
Donc, en prenant des voix à ses adversaires principaux, pour préciser, en prenant des voix
essentiellement au Rassemblement National et à Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, ces hypothèses-là, comme tout sondage, sont intéressantes, puisque ça montre justement, quand on voit à qui cette liste prendrait des voix, on voit également quel est le noyau dur des Gilets jaunes. Effectivement, comme l'a dit Gérard Courtois, et puis bon, Luc Rouban, ça fait toujours un travail très intéressant. Je crois qu'effectivement, l'emprise, pas une emprise organisationnelle, mais l'emprise, disons, culturelle, politique, du Rassemblement National sur la mobilisation des Gilets jaunes est très naturellement très forte.
Et alors, justement, si on poursuit dans le rôle des sondages, lorsqu'on voit aujourd'hui les chiffres qui sont annoncés, on a donc de plus en plus une polarisation croissante de l'opinion par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Il y a aujourd'hui, alors, c'est le Figaro du jour, parce qu'il y a énormément de sondages. Donc là, en l'occurrence, c'est une note pour la Fondation Jean Jaurès qui est reproduite dans le Figaro du jour. Et le sondage est fait par l'IFOP. On a 44% de Français qui soutiennent l'action des Gilets jaunes, 40% qui ne se sentent pas Gilets jaunes et 16% des Français qui, aujourd'hui, se disent gilets jaunes. Jérôme Sainte-Marie, comment sont faits ces sondages? Est-ce que l'on est certain qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un biais de recrutement? Parce que on sait que votre profession, comme toutes les professions, a des problèmes. Mais vos problèmes, c'est par exemple la disparition des téléphones fixes, le fait qu'il y a de plus en plus de sondages qui sont administrés par Internet. Et on voit que politiquement, eh bien, par exemple, le Brexit, mais aussi l'élection de Donald Trump, bref, le mouvement populiste est un mouvement qui est compliqué parce qu'il marque une défiance à la fois par rapport à la politique et peut-être aussi par rapport aux instituts de sondage.
Oui, je vais vous répondre essentiellement sur la pratique des instituts de sondage en France. Cette pratique, alors il faut considérer que la plupart des sondages qui sont faits désormais par la méthode des quotas, enfin depuis assez longtemps, sont faits désormais par Internet. Auprès d'Access Panel, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui répondent au hasard, c'est pas des sondages qu'on met sur un site et puis les gens qui veulent répondre répondraient. Non, c'est à travers ce qu'on appelle les Access Panel, c'est-à-dire des énormes bases d'adresses mail de gens qui acceptent de répondre. Et donc là, il y a un premier biais, bien entendu. Et après, les gens qui vont effectivement répondre. Alors, il y a sans doute, il y a toujours d'ailleurs des biais dans les sondages. Et notre travail consiste, sondage après sondage, à essayer de les réduire. Mais ce que je peux constater, c'est que quel que soit l'institut et quelle que soit la méthode, on obtient les mêmes ordres de grandeur. Et on voit pas très bien...
Peut-être parce que les biais de recrutement sont les mêmes pour tous les instituts.
Ça serait bizarre, parce que quand vous faites des sondages par téléphone, il y en a encore, vous n'observez pas non plus de différence par rapport à ce qui est mesuré là-dessus. Il semblerait en plus que compte tenu effectivement des... Alors pour les téléphones au niveau national, on interroge les gens non seulement sur les téléphones fixes, mais également sur les téléphones mobiles. On a également des bases de données, de chiffres, de numéros de téléphone, pardon, mobiles, ce qui fait qu'au niveau national, il n'y a aucun problème de couverture. On obtient sans cesse cela. Donc je sais qu'on est, comme toutes les personnes, c'est pas votre cas, mais toutes les personnes qui sont mécontentes à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, d'un résultat d'un sondage, va effectivement s'interroger sur la méthode. Ce qui est très bien d'ailleurs, ça nous oblige, ça nous surveille. Mais là, en l'occurrence, on ne voit pas très bien quelle explication en termes de biais méthodologique on aurait à ces résultats qui, certes, on peut surprendre. Je finirai juste cette tirade par le fait que, généralement, les instituts de sondage, depuis des décennies, notamment par les héritiers de Pierre Bourdieu, je rappelle, l'opinion publique n'existe pas, janvier 1973, dans les temps modernes.
Et oui, bien, parce que alors, là, il faut le dire et l'expliquer aux auditeurs, traditionnellement, la critique des sondages, elle vient effectivement plutôt d'une sociologie de gauche, avec un mécontentement en disant, finalement, ça ne mesure pas l'opinion, ça la construit, Jérôme.
Voilà, c'est une critique qui est très largement liée à la fin des années 60, début 70, où grosso modo, les milieux universitaires, et notamment les facultés de sociologie, qui étaient assez favorables au mouvement de contestation de 1968 et à ses suites, considéraient que les sondages qui montraient une majorité silencieuse plutôt favorable au gouvernement du général de Gaulle, puis après le président général de Gaulle, puis après le président Pompidou, eh bien, pour des raisons à la fois politiques et culturelles, peut-être aussi un peu intellectuelles, n'exagérons rien, eh bien, ces milieux universitaires souvent disaient, mais au fond, les sondages mesurent une opinion construite, alors que la réalité, c'est le mouvement social. Et derrière, il y avait l'idée, les instituts de sondage sont au service des intérêts dominants et des classes dominantes. Donc c'était aussi dans une forme de marxisme plus ou moins décomposé, si vous voulez, qu'on avait cette critique-là. Moi, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf que cette critique a vraiment du plomb dans l'aile depuis au moins 1995, lors des grandes grèves, vous savez, contre le plan Juppé sur la SNCF, sur les retraites complémentaires. Eh bien là, à la surprise générale, on s'est rendu compte que l'opinion, dans des proportions de 55% à peu près, soutenait les grévistes. Et que on a même parlé à l'époque de grève par procuration, c'est-à-dire que les Français, c'est un peu aussi un mouvement par procuration actuellement avec les Gilets jaunes, les Français exprimaient majoritairement dans les sondages un soutien à un mouvement, alors même qu'ils n'allaient pas forcément faire grève et encore même pas manifester. C'était vrai en 95, c'est vrai également aujourd'hui. Depuis lors, si vous voulez, cette critique selon laquelle les instituts de sondage, pour des raisons tenant à leur capital, à leurs propriétaires, seraient au service des intérêts dominants, me paraît incroyablement faible. Et surtout, depuis 2 mois et demi que dure le mouvement des Gilets jaunes, j'aimerais qu'on m'explique à quel intérêt nous répondons pour, collectivement, les instituts de sondage, pour rendre public, et après c'est publié par les médias, eh bien, des chiffres qui montrent un soutien très majoritaire, et même aujourd'hui, toujours majoritaire. On voit bien que ça gêne et le pouvoir en place et ce qu'on pourrait appeler les intérêts dominants. Bref, ce genre de procès d'intention fait au sondage, à mon avis, j'espère en tout cas, ne devrait pas survivre à cette période.
En tout cas, Gérard Courtois, on voit que traditionnellement, pour les élections, il y a le procès des sondeurs. On convoque Jérôme Sainte-Marie et ses collègues pour dire que tel parti est minoré. Là, il n'y a pas eu de discussion sur les sondages. Il y a en revanche eu une réaction de l'exécutif qui était une réaction très forte. À certains moments, par exemple, après le 8 décembre, il y a eu une forme même, peut-on dire, d'affolement. On évoquait une république menacée. S'agit-il, selon vous, d'une surréaction ou bien fallait-il que l'exécutif prenne ces mesures-là par rapport à l'ampleur de la protestation ?
Il y a deux choses. Il y a les mesures qu'il a adoptées, qu'il a annoncées, que le président Macron a annoncées le 10 décembre, de mémoire. Et puis, il y a la semaine qui a précédé, qui effectivement a été un peu en apesanteur, semble-t-il, du côté de l'Élysée ou de Matignon. Je voudrais revenir sur deux trois points qu'on vient d'évoquer. Vous parliez de la manière dont les Gilets jaunes, je reviendrai sur le pouvoir après, mais la manière dont les Gilets jaunes se sont adossés et ont invoqué les sondages pour dire nous existons, nous pesons.
Par exemple, dans le groupe Facebook d'Éric Drouet, aujourd'hui, lettre publiée qui dit nous avons 75% d'opinion favorable. Okay. Et donc c'est ça en quelque sorte, ce n'est pas exactement ce qu'il dit, mais en substance c'est ça notre légitimité. C'est notre légitimité.
Moi, je suis prêt à parier que, comme tout acteur politique, Monsieur Drouet ou tous ceux qui utiliseraient le même argument, le jour où le soutien aux Gilets jaunes, et ça se produira inévitablement à un moment ou à un autre pour X raisons, par épuisement même du mouvement ou par réponse apportée par le pouvoir. Le jour où ce soutien se décroîtra et deviendra minoritaire, je suis prêt à prendre les paris que M. Drouet ou d'autres se mettront à décrier violemment ces sondages manipulés qu'ils ont brandis comme un signe de légitimité 2 mois avant. Tous les politiques font ça. tous les acteurs politiques font ça, les professionnels les premiers, quand les sondages leur sont défavorables. Donc, c'est très relatif.
C'est très relatif, mais alors, ce niveau-là aussi, les sondages enregistrent différents chiffres, la tendance semble être aujourd'hui relativement stabilisée entre les gens favorables aux Gilets jaunes et les gens qui seraient hostiles, avec De France Clivet, par exemple. Donc, ce chiffre de l'IFOP, 40% ne se sentent pas Gilets jaunes et 44% soutiennent l'action. Pourquoi ces grandes masses évolueraient-elles, sachant qu'il y a eu des violences, ça n'a pas modifié la perception du mouvement? Il y a eu des dérapages, ça ne les a pas modifiés aussi. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour que l'opinion décroche ?
Il y a quand même... Je pense que la tonalité générale a évolué après l'annonce des premières mesures par le président de la République.
Il y a eu une évolution, effectivement.
Il y a eu, aux yeux, me semble-t-il, de l'opinion, il y a eu le sentiment qu'il y avait des gestes.
Un geste.
Alors, beaucoup ont dit c'est des cacahuètes, c'est rien du tout, c'est des miettes. Mais pour les gens qui ne sont pas dans l'irrationalité, mais dans un minimum de rationalité, ils se sont rendus compte que c'était pas rien. Bon, mais ça n'était pas suffisant. Donc le deuxième acte, si on peut dire, de réponse, qui peut ça démarre. C'est un pari et il n'est pas gagné, mais il n'est pas perdu à mon avis. C'est celui du débat. C'est la démonstration par le pouvoir qu'il est prêt à écouter et à entendre et à répondre en bout de course. C'est difficile pour un mouvement qui revendique d'être entendu et écouté de récuser globalement et de manière radicale des débats qui, à l'évidence, se développent. Je ne parle pas seulement des one-man shows du président de la République devant les maires, mais dans des centaines d'endroits, dans des centaines de petites villes, de villages, de gros bourgs, s'organisent des débats. Par les maires, par les associations, par des syndicats, par des particuliers, etc. Donc il se passe quelque chose. Ça peut être un immense déballage. Tout dépendra de la manière dont la synthèse de tout ça se construira et sera reprise et comment par le pouvoir, mais c'est très difficile pour un mouvement qui revendiquait la démocratie directe de récuser. Donc forcément, c'est en train de faire bouger, je pense, l'opinion.
Jérôme Sainte-Marie, qui est sondeur, puisqu'on évoque donc le poids des sondages, la manière dont l'opinion est influencée et mesurée, parce que ces deux choses-là sont liées dans le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, alors pour comprendre le contexte, je crois qu'il faut revenir à une étude qu'a signée Gérard Courtois, cette étude qui a été faite par Opinionway pour le Cevipof, effectivement, qui est d'une richesse, et il y a beaucoup de sondages qui servent pas à grand chose, c'est un sondeur qui vous parle, mais là, il y a vraiment quelques sondages quelques études qui sont vraiment d'une grande richesse. Cette étude est fondamentale, elle montre déjà un décrochage de l'opinion française par rapport à la philosophie libérale, la philosophie des réformes menée par le président Macron. C'est ça qui est véritablement déterminant, me semble-t-il. Et globalement, à travers dans le flou des revendications des Gilets jaunes, qui n'ont plus de mot d'ordre très clair depuis que les nouvelles taxes sur le carburant ont été retirées. Donc c'est gênant, un mouvement qui n'a pas de mot d'ordre, si vous voulez. C'est-à-dire, ça se voit même dans les mobilisations dans la rue. Il n'y a pas vraiment, à part la détestation du président de la République, c'est assez confus.
Il y a le référendum d'initiative.
Le référendum d'initiative citoyenne, etc. Mais enfin, bon, encore, faut-il pourquoi voter ? Enfin, c'est bien de vouloir voter, mais pourquoi ? Donc il y a effectivement un refus majoritaire dans l'opinion de la philosophie et des objectifs de ces réformes. Réformes qui ne vont pas s'arrêter. Je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de Français sont encore dans le refus dans le refus par rapport à la politique gouvernementale et dans le soutien relatif à ce mouvement. Mais après, c'est un mouvement qui n'a pas vraiment de chef, qui n'a pas de programme, qui ne peut pas tellement...
Il a de plus en plus des chefs.
Oui, enfin c'est très variable. Puis il y a beaucoup de chefs autoproclamés. Alors
Maxime Nicole, Éric Drouet semblent être.
Oui, non, mais après je vois bien le travail de certaines fondations plus ou moins autoproclamées pour les diaboliser. Mais
parler de la fondation Jean Jaurès.
C'est beaucoup. Oui, ou d'autres formations plus ou moins macronistes. Mais effectivement, vous avez après ces chefs-là sont largement construits justement pour les diaboliser. La vérité, c'est que vous avez un mouvement qui n'a pas de structure et qui donc n'a pas d'instance délibérative en réalité et est victime de ses des chefs autoproclamés parce qu'il ne peut même pas les démettre.
Frédéric Saïs.
Ce qui est intéressant, si on prend du recul sur cette période depuis le 17 novembre, c'est de voir à quel point le gouvernement a toujours semblé avoir un train de retard dans son estimation de l'intensité du mouvement qu'il avait en face. On se rappelle de l'acte 1, qu'est-ce qui se passe juste après ? Emmanuel Macron fait un discours et il promet un haut conseil pour le climat. Alors là, effectivement, ça
on l'a retrouvé,
un effet à peu près nul. Il existe toujours et on le salue. Après l'acte 2, on a Édouard Philippe qui vient à la radio pour dire qu'il va mettre en place une surprime pour la conversion automobile, pour changer sa chaudière au fioul. Là encore, effet quasi nul sur les gilets jaunes qui disent on n'est pas du tout dans la même perspective. Et donc chaque semaine comme ça, il a semblé avoir un décalage et une réponse du gouvernement qui était toujours un peu en retard. Et à la rigueur, si Emmanuel Macron avait annoncé les mesures de 10 milliards d'euros du 10 décembre plutôt dans le mouvement, on peut légitimement penser que ça aurait largement dégonflé les effectifs avant qu'il y ait vraiment une mobilisation totale des gens qui étaient agacés. Et ça pose la question, et ça revient au sujet de l'émission, des capteurs du pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs un mouvement qui a commencé aussi beaucoup au moment des 80 km/h. Il y a eu à l'époque les premières pages Facebook qui se sont constituées, il y a eu les premiers rassemblements dans les préfectures qui n'ont pas été beaucoup traités par les médias, mais qui ont donné l'impression à ces groupes-là qu'ils pouvaient s'organiser, qu'ils pouvaient peser sur le débat public. Question des capteurs, donc, on a beaucoup parlé des élus locaux qui manqueraient à La République En Marche, par définition, c'est un mouvement très jeune. Mais question à Jérôme Sainte-Marie, est-ce que le pouvoir, à votre connaissance, utilise, comme le faisait Nicolas Sarkozy, des sondages qu'il commande lui-même, des sondages privés ad hoc, pour sentir un peu mieux, au-delà de ce qui paraît dans la presse, les sentiments de la population ?
J'en suis pas sûr. Vous savez, Nicolas Sarkozy, contrairement à ce qu'on raconte, n'a pas commandé particulièrement de sondages, si vous voulez. Sauf que le problème de Nicolas Sarkozy...
Il y a eu un procès retentissant qui est d'ailleurs en cours sur...
Oui, mais Nicolas Sarkozy...
Plus d'un million de commandes.
Quelle est l'originalité de Nicolas Sarkozy ? C'est qu'il a laissé la Cour des comptes contrôler tout cela. Mais si vous prenez les sondages à l'époque de Jacques Chirac, à l'époque de
On ne dit pas qu'il en a fait plus que les précédents, mais il en a fait en tout cas de manière évidente.
J'ai travaillé au service d'information du gouvernement, j'étais militaire à l'époque. À l'époque de Michel Rocard, on n'a jamais connu autant de sondages. Il y avait des sondages partout, etc.
Alors justement, aujourd'hui, est-ce que Emmanuel Macron...
Je pense beaucoup moins, justement, parce que depuis l'affaire dite des sondages de l'Élysée, depuis 2009, et depuis que la Cour des comptes, grâce à Nicolas Sarkozy, paradoxalement, est rentrée là-dedans, eh bien, vous avez... comment dirais-je, une réticence et une prudence extrême. Mais enfin, vous savez, parfois certains s'en plaignent en disant il y a trop de sondages. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a beaucoup de sondages publics et qu'en fait, le gouvernement, sur ces questions-là, n'est pas particulièrement mieux informé par les sondages que ne l'est l'opinion. Regardez, chaque semaine, vous avez sur la question des gilets jaunes et sur ces questions-là, plusieurs instituts qui posent des questions légèrement différentes. Ça permet de voir toutes les facettes.
Parce qu'il n'y a pas uniquement les sondages quantitatifs, entre guillemets, ceux qu'on voit dans la presse. Il y a aussi les sondages qualitatifs qui était étudié par les pouvoirs, c'est-à-dire vous mettez un certain nombre de personnes derrière des vitres sans teint, vous les faites parler de certains sujets et vous arrivez à mieux comprendre profondément ce qui agit ou pas ces citoyens.
Alors en deux phrases pour vous répondre, il est très difficile par un sondage de prévoir un mouvement social. Par contre, les conditions de possibilité d'un mouvement de ce genre, ça on peut le voir, mais les conditions de possibilité ont été vues par beaucoup de monde, par des géographes, des sociologues, même des sondeurs. Mais après, entre dire un mouvement peut se produire et un mouvement va se produire, c'est pas du tout la même question.
Gérard Courtois, justement, par rapport aux capteurs de la Macronie, est-ce que, par exemple, la description ou la caricature qui est faite de cette Macronie comme étant un mouvement ayant peu de capteurs, peu de relais, un peu hors sol, c'est vrai ou c'est faux ?
Mais c'est à la fois c'est vrai, c'est faux. Non, mais franchement, on a évoqué les 80 km/h. Tout le monde a compris depuis le début de l'année 2018 que cette affaire était une pomme de discorde, et notamment dans les régions, dans les périphéries urbaines, dans les zones rurales, etc., et que ça allait que c'était un truc qui ne passait pas. Monsieur Collomb l'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce pouvoir, le Premier ministre en particulier, n'ont pas voulu entendre et ont considéré que c'était une mesure symbolique qu'il fallait imposer pour montrer la détermination à réformer. Donc là, il n'y avait pas absence de capteurs. Tous les médias, toutes les enquêtes, quiconque voulait comprendre ce qui se passait là, comprenait qu'il y avait là quelque chose qui risquait de poser problème. Et deuxième chose, pour prolonger ce que disait Frédéric, Macron et le pouvoir ont eu systématiquement un temps de retard, mais c'est pas seulement dans le mouvement des Gilets jaunes à partir du mois de novembre. Ils ont un temps de retard depuis le mois de juillet. Et depuis l'affaire Benalla. C'est depuis ce moment-là que ce pouvoir s'est détraqué.
Merci à tous les deux. Jérôme Sainte-Marie, vous êtes président de Polling Vox, et Gérard Courtois, vous êtes éditorialiste au journal Le Monde.